Mais bien-aimés, ayant à vous prêcher le grand jeûne, le plus saint, quel meilleur début choisirais-je que de commencer par les paroles de l'apôtre en qui le Christ parlait et de dire ce qu'on a lu, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». À la vérité, il n'est aucune époque qui ne soit pleine des bienfaits divins et toujours à la miséricorde de Dieu, sa grâce elle-même nous prépare un accès. Mais maintenant, tous les cœurs doivent apporter plus d'application à leur progrès spirituel et s'y exciter avec une plus large confiance puisque nous sommes invités à tous nos devoirs de piété par le retour du jour de notre rédemption pour que le sacrement de la Passion du Seigneur, plus excellent que tout, soit par nous célébré avec des corps et des esprits purifiés. Ainsi s'exprime Saint Léon. Saint Léon le Grand, le pape, dans son sermon sur le carême, en répétant les paroles de l'apôtre, c'est le jour favorable, c'est le temps du salut. Il nous faut nous convertir pour nous préparer au sacrement de la Passion du Christ, c'est-à-dire à la fête de Pâques. Oui, le carême est un de ces usages auxquels on est tellement habitué, et qui revient chaque année, qu'on n'y fait guère plus attention. Et qu'en définitive, on ignore plus ou moins ce que c'est. Surtout que nous vivons dans une époque d'apostasie, une époque où on a perdu le sens chrétien. Et de fait, le carême ne nous marque plus tellement, sinon par les modifications, les quelques petites modifications de la liturgie. Alors il faut bien comprendre le carême dans toute son histoire, dans toutes ses origines, avant d'arriver à donner des raisons pratiques. L'origine, quel est le premier carême? Le premier carême commence dans l'Ancien Testament. Le premier carême de l'histoire, c'est l'Ancien Testament, c'est le déluge. Le déluge, en effet. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, au 2e jour, le 17e jour du mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et ce fut le déluge 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. La crue des eaux grossit tellement que l'arche se mit à flotter sur les eaux. La crue devint si forte sur la terre que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent recouvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Et toute chair qui se met sur la terre périt, oiseaux, animaux domestiques, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur terre et tous les hommes, tout ce qui respire pour vivre, tout ce qui demeure sur la terre ferme mourut. Ainsi fut effacé tout être à la surface du sol, avec l'homme, les animaux domestiques, les reptiles, les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà le premier carême, les premiers 40 jours, les 40 jours du déluge qui détruisent toute la vie sur la terre. Un autre carême, une autre quarantaine, c'est la montée de Moïse au Sinaï. Yahvé dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour leur instruction. » Moïse partit avec Josué, son serviteur, et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Moïse monta vers la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de Yahvé demeura sur la montagne du Sinaï. Le 7e jour, Yahvé appela Moïse. Moïse entra dans la nuée et monta à la montagne, et Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse, sur la montagne du Sinaï, 40 jours et 40 nuits, dans la gloire de Dieu, dans la nuée. Autre carême encore, si l'on peut dire, ce sont les 40 ans passés dans le désert. Les Hébreux, 40 ans, il faut s'imaginer ce que c'est quand même, ce n'est pas 40 jours, mais 40 ans de suite, de telle sorte que ceux qui sont entrés n'en sont pas ressortis. C'était fait pour ça d'ailleurs. Dieu l'a affirmé, de telle sorte que tous ceux qui ont péché dans le désert, c'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés, eh bien périront dans le désert, et ce sont leurs enfants qui en sortiront. Et puis enfin, un autre carême dans l'Ancien Testament, un peu moins connu peut-être. Bon, je pense que vous connaissiez l'histoire du déluge et l'histoire de Moïse au Sinaï. Mais le prophète Élie. Le prophète Élie avait réussi à faire massacrer les peuples et les prophètes de Baal dans le nord de la Palestine, dans le royaume d'Israël au nord. Mais cela n'a pas converti la reine d'Israël qui a pourchassé le prophète Élie. Et alors le prophète Élie a marché. Et puis il est arrivé au sud de l'état actuel d'Israël. Il était arrivé, disons, à la frontière du Sinaï. À la frontière du Sinaï. Il prit peur, il partit. Il arriva à Berzabé, c'est donc au sud de la Palestine. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert l'espace d'une journée de marche. Arrivé là, il s'assit sous un genêt et demanda pour lui la mort. Et il dit, « C'est assez. Maintenant, Yahvé, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Oui, il était complètement épuisé par sa course de l'État d'Israël pour fuir la persécution. Alors, il en a assez. Il en a assez, il en a marre. Autrement dit, il laisse tout et il désire mourir. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Debout et mange. » Et l'ange de Yahvé vint une seconde fois, le toucha et dit, « Debout et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits. De nouveau encore 40 jours et 40 nuits pour entrer dans le désert. Et puis enfin, il y a le carême dont nous parlons aujourd'hui, qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons lu l'Évangile ce matin, le récit ce matin. Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oui, 40 jours et 40 nuits. Vous savez que les musulmans jeûnent, mais pendant le jour seulement. Pendant la nuit, c'est autre chose. Bien. Eh bien, voyez, aux époques de chrétienté, il y avait une abstinence et un jeûne continuel pendant tout le carême. Il fut une époque où on s'abstenait même de laitage et de vin. Et c'était une œuvre publique, vous comprenez. Le carême, ce n'était pas seulement une œuvre personnelle, une œuvre de la famille, mais ça concernait les églises, les établissements publics, les auberges, l'armée, les manifestations officielles. Bref, c'était toute la chrétienté, toute la cité qui accomplissait le carême. Ce qui faisait dire au pape Benoît XIV, l'observance du carême est le lien de notre milice, et c'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. C'est par le carême que nous nous distinguons des ennemis de la croix. C'est par le carême que nous détournons les fléaux de la divine colère. C'est par le carême que, protégés du secours céleste durant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Et si cette observance vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique et au péril des âmes chrétiennes. Et au péril des âmes chrétiennes. Si l'observance tend à se relâcher, c'est au péril des âmes chrétiennes. Et l'on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne la source de malheur pour les peuples, de désastre dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. La catastrophe de la chrétienté vient du refus de cette observance du carême. Et il y avait même des lois, je ne vais pas donner tous les détails, mais il y avait même des lois qui étaient portées par les chefs d'État catholiques pendant le carême, qui interdisaient certaines activités. En particulier, les tribunaux ne fonctionnaient pas pendant le carême. Alors, les gens qui avaient des dettes étaient bien arrangés du reste, parce que le paiement des dettes était suspendu pendant le carême. On n'avait pas le droit d'exiger le remboursement des dettes pendant le carême, on n'avait pas le droit d'opérer des saisies, on n'avait pas le droit de faire des procès, etc., etc. Mais c'est pour vous dire que c'était tout un état d'esprit, tout un climat. Oui, tout un climat. Et pourquoi? Eh bien, pour retrouver Dieu, pour se purifier, pour se préparer à la fête de Pâques. Il nous convient de nous trouver dans la sainteté pour cette fête de Pâques. Mais cette constance dans la sainteté est le fait d'un petit nombre. La fragilité de la chair met du relâchement dans l'observance d'une telle austérité. Et à travers les occupations variées de cette vie où se détend notre attention, il est inévitable que même les cœurs religieux se souillent de la poussière du monde. C'est à ce grand besoin de purification qu'a pourvu la divine institution d'un exercice de 40 jours pendant lesquels nous renouvelons la pureté de nos âmes en rachetant par des œuvres pies les fautes des autres temps et en les consumant en des jeûnes faits en toute pureté d'intention. Oui, nous avons besoin de nous renouveler dans l'esprit intérieur. Nous avons besoin de nous retrouver seul à seul avec le Christ et de suivre l'exemple du Christ. Eh bien, l'Église doit vivre cette quarantaine, doit vivre ce carême à l'exemple du Christ, c'est-à-dire partir au désert. Partir au désert. Le désert, c'est une chose qui a toujours fasciné les grandes âmes, les grands cœurs. Les héros ont toujours été fascinés par le désert. Voyez-vous, le désert, même si on n'a pas la foi, c'est le moyen d'échapper à la médiocrité du monde. Le désert, c'est une image de solitude, de paix, de silence, d'austérité. Et il faut bien reconnaître que beaucoup y aspirent aujourd'hui. Qui n'y aspirerait aujourd'hui contre l'agitation et les soucis de chaque jour? Oui, c'est un lieu de paix, de silence, de solitude, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un lieu de combat. On peut donc définir le carême comme un temps et un lieu de purification, d'amour de Dieu et de combat, de purification du péché, d'amour de Dieu, mais attention, d'amour exclusif de Dieu. Tout le monde aime le bon Dieu, ça c'est facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est de n'aimer que Dieu lui-même, Dieu seul, et de combat. Oui, temps de purification. Eh bien, reprenez les carêmes de l'Ancien Testament dont je vous ai parlé. Le déluge, temps de purification, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'à part la famille de Noé, tout le péché est détruit. Et le péché est détruit, oui, c'est un moyen un peu expéditif, c'est que les pécheurs sont détruits. Bon, on espère, d'ailleurs, le bon Dieu a promis qu'il ne détruirait plus le péché de cette manière-là. Il l'a fait une fois pour toutes, mais il y a d'autres moyens de détruire le péché que de détruire les pécheurs. Mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Destruction totale. Le Sinaï, c'est la même chose. Moïse se sépare du peuple. Moïse se sépare du monde pour recevoir sur le mont Sinaï la révélation de Dieu. Et c'est sur le mont Sinaï qu'il va recevoir les 10 commandements. Mais pour cela, il faut qu'il quitte le monde. La traversée du désert pour purifier le peuple des Hébreux de ses péchés. Le prophète Élie qui doit fuir le monde pour recevoir la révélation de Dieu. Le prophète Élie va se trouver aussi quitter le monde pour recevoir la révélation de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a conduit au Sinaï, à la montagne de Dieu. Quant au Christ, il est clair que le Christ n'avait pas besoin de se purifier du péché, bien sûr, mais il nous montre l'exemple. Le Christ a fait ce que l'Église doit faire. L'Église a accompli en elle-même ce que le Christ a fait une bonne fois pour toutes. Eh bien, nous aussi, le carême est d'abord là pour nous purifier. Parce que nous sommes pris. Bon, sans doute, nous avons des péchés, il faut faire pénitence pour ces péchés, mais ça, vous le savez, et je crois que ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Mais sur le fait que nous sommes pris inconsciemment, sans nous en rendre compte, par l'ambiance générale du monde. L'ambiance générale de ce monde de matérialisme, nous sommes pris dedans. Alors que ce soit la télévision, que ce soit les Walkman, que ce soit le bal, que ce soit les journaux, l'automobile, les machines, le confort, les loisirs, les stations de sport d'hiver, les stations de sport d'été, tout ce que vous voudrez, les voyages, eh bien vous pouvez constater qu'on vit dans un matérialisme continuel, une agitation continuelle. Nulle part il n'y a la paix et le silence. Et tout cela est fait pour oublier Dieu. Personne n'en échappe. Le mal de l'Occident, c'est cela. Et c'est la cause de notre distraction de la prière, c'est la cause de notre médiocrité. Ce monde nous déchire et nous divise. Il nous fait oublier le but de notre vie. Il nous fait oublier que notre vie doit finir un jour. Il faut se rappeler souvent que notre vie doit finir un jour. Notre vie doit finir un jour. Oui. Eh bien, le carême, c'est de fuir ce monde. Le carême, c'est de fuir ce monde. Alors, sans doute, je ne vous invite pas à partir au désert. Du reste, désert, c'est un peu loin. Je ne vous invite pas à vous enfermer, bien que si vous faites une retraite, ça ne vous fera pas de mal, mais ce n'est pas toujours possible, à vous enfermer en sortant du monde, ça n'est pas possible, mais en esprit, il faut vivre cette fuite du monde. Il faut vivre cette séparation du monde. Il faut vivre cette séparation du monde. Il faut fuir toute cette souillure que le monde nous fait dans l'ambiance où nous travaillons, dans l'ambiance où nous sommes. Tous les jours, nous sommes en contact avec le péché, avec la corruption, avec le laisser-aller, avec cette civilisation matérialiste. Nous sommes en contact tous les jours avec elle. Eh bien, il faut savoir rompre. Ne formez pas, dit saint Paul, avec les infidèles d'attelage disparate. Quelle société pourrait-il y avoir de la justice avec l'iniquité? Que peut bien avoir de commun la lumière avec les ténèbres? Quel accord est possible du Christ avec Bélial? Quelle part le fidèle peut-il avoir avec l'infidèle? Quelle jonction peut-on concevoir du temple de Dieu avec les idoles? Or, nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et nous sommes souillés par ce monde. Nous ne pouvons souvent pas faire autrement. Eh bien, le carême, c'est le moment de nous en séparer. Et il faut en savoir tirer les conséquences pratiques, vous voyez. Il y a des choses que pendant le carême, on ne peut pas accepter. Il y a parfois des réceptions, des fêtes et autres choses qui ne conviennent pas pendant le carême. Des chrétiens se doivent de ne pas célébrer de fêtes, j'entends, je veux dire de fêtes avec une grande dépense, disons, pendant le carême. Ça ne convient pas. Mais alors, parce que les gens du monde le font, eh bien, on le fait avec eux, mais c'est anormal. Nous devons vivre le carême totalement, et s'il y a des pratiques qui se font aujourd'hui et qui vont contre le carême, nous ne devons pas être d'accord. Il faut aller jusqu'au bout. Savoir se séparer du monde, c'est indispensable. Purification, donc. Purification et puis amour exclusif de Dieu. C'est l'amour de Dieu, dit Pie XII, qui peuple les monastères, ce n'est pas l'amour de la pénitence. En soi, la pénitence n'a rien d'agréable. Mais c'est l'amour de Dieu. Il faut trouver enfin la vraie paix, qui est une immense activité d'amour. Aller au désert pour trouver Dieu seul. Dieu seul. Je pourrais vous citer un exemple, c'est celui de Charles de Foucault. Vous l'avez peut-être un peu connu. Charles de Foucault était d'une grande famille de France, brillant élève, très intelligent, mais assez paresseux. Alors, comme dans toutes ces familles, eh bien, on prépare les grandes écoles. Alors, il a préparé une grande école, c'est normal, mais la plus facile. C'était l'école de Saint-Cyr. Bon, c'était plus facile que de préparer Polytechnique. Bon. Et puis, alors, il se trouve brillant officier, mais très mondain, bien sûr, très indiscipliné, bref, un homme de soirée. Il a fini par perdre la foi, du reste, mais non pas parce qu'il a, il a beaucoup réfléchi, mais c'est simplement parce qu'il voulait vivre comme il l'entendait. Bien. Alors, une vie brillante, tout à fait, sans vie chrétienne, mais même sans conscience professionnelle. On riait de ses frasques et de ses travers, il s'habillait avec une recherche extrême, ne fumait que des cigares d'une certaine marque, n'acceptait jamais qu'un garçon de café ou un cocher lui rendît la monnaie d'un louis, d'une pièce, donc il voulait jouer les grands seigneurs, jouait gros jeu, dépensait si follement que son oncle devait bientôt à la grande fureur de Charles le pouvoir d'un conseil judiciaire. On devine d'ailleurs que les hôteliers, les bottiers, les tailleurs, les marchands en tout genre s'entendaient à merveille pour faire des brèches dans sa fortune. Et la vie qu'il mena un peu partout était toujours la même. On raconte même qu'ayant été obligé de quitter divers logements parce que les colocataires se plaignaient du tapage qu'il y faisait et des compagnies fâcheuses qu'il y attirait, vous pouvez tout imaginer, il finit par avoir quelque peine à trouver un gardien dans la petite ville. Alors, ça a duré pendant des années comme ça. Bon. Et puis, que s'est-il passé? Oh, tout simplement, c'est qu'il a été envoyé, puisqu'il était militaire, et militaire de carrière, en France, il y a des militaires de carrière, il a été envoyé en Afrique, au temps où nous avions encore des colonies et où l'Algérie était française. Bien. Il a donc été envoyé en Afrique. Et alors il est tombé dans l'admiration pour le désert africain. Oh, il n'y avait rien de surnaturel là-dedans, mais il a été fasciné par le désert. Ça, il a été émerveillé. L'amour du silence, l'espace, l'imprévu, le primitif de la vie, le mystère, le refus du confort moderne. Bref, tout cela l'a enthousiasmé. Ça l'a tellement enthousiasmé qu'il a voulu aller plus loin et qu'il a voulu explorer un pays inconnu, enfin un pays qu'on ne connaissait pas de l'intérieur, à savoir le Maroc. À l'époque, le Maroc était un pays fermé. On ne pouvait pas y pénétrer et on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. On ne connaissait pas, il n'y avait pas de carte, rien du tout. Or, la France projetait d'étendre sa domination sur le Maroc. Et alors, lui-même a voulu explorer le Maroc. À l'époque, c'était bon, dangereux, bien sûr. Et comme il voulait le faire de manière indépendante, il a donné sa démission de l'armée. Et puis, il est parti au Maroc. Il a embauché un juif pour lui servir de guide. Et lui-même s'est déguisé en juif. Et puis il est parti comme ça, il a vécu une vie pleine d'aventures. Et il a pu vivre dans le désert et puis connaître, explorer, vivre l'aventure, etc. Très bien. Mais cela ne lui suffisait pas. Il s'est bien rendu compte que le bonheur qu'il recherchait, il n'avait pas pu le trouver dans la jouissance et dans la débauche. Il ne peut pas non plus le trouver dans l'aventure. Et c'est alors qu'il a rencontré un prêtre à Paris qui était l'abbé Huvelin, et qu'il a compris que la véritable aventure, c'est l'aventure chrétienne. Et alors, il a voulu se faire religieux, se faire moine. Il est passé dans divers monastères, mais ça ne suffisait pas. Ça n'allait pas, il n'était pas à son aise. Et en définitive, il a fini par se trouver ermite au Sahara. Il est retourné en Algérie, au sud de l'Algérie, et il a établi son ermitage au sud du Sahara, dans une région musulmane, en plein désert, avec quelques habitants seulement, s'enfonçant toujours plus profond dans le désert. Et il était prêtre, d'ici là il avait été ordonné prêtre, et c'est là qu'il a vécu pendant des années, jusqu'au jour où il est mort, il a été assassiné. Bon. Alors je vous laisse quelques-unes de ses pensées, pour vous aider à comprendre, vous n'allez pas partir pour le désert, mais pour vous aider à comprendre ce que c'est que l'esprit du désert, l'esprit du carême. Ce qu'il y a de merveilleux ici, ce sont les couchers de soleil, les soirées et les nuits. Les soirées sont si calmes, les nuits si sereines, ce grand ciel et ces vastes horizons éclairés à demi par les astres sont si paisibles et chantent silencieusement d'une manière si pénétrante l'éternel, l'infini, l'au-delà, qu'on passerait les nuits entières dans cette contemplation. Pourtant, j'abrège ces contemplations et je retourne après peu d'instants devant le tabernacle, car il y a plus dans l'humble tabernacle. Rien n'est rien comparé au bien-aimé. Autrement dit, les paysages, c'est magnifique, c'est très beau, très bien. D'accord, le coucher de soleil, tout ça, c'est magnifique. Mais ça, ça n'est rien. Ça n'est rien. Ça n'est rien à côté du tabernacle. Il aimait, dit-on de lui, il aimait passionnément Jésus-Christ, son Dieu, son frère, son ami. Et son grand bonheur était de converser avec le prisonnier d'amour réellement présent au tabernacle. La prière faisait ses délices, elle était vraiment sa vie et la respiration de son âme. Il passait la plus grande partie de ses journées et de ses nuits agenouillé devant le très saint sacrement, adorant, suppliant, remerciant, réparant. Comme la nuit de Noël, il n'avait pas quitté un seul instant notre église, j'osais lui demander, le lendemain, comment il pouvait rester si longtemps éveillé au milieu des plus épaisses ténèbres. « On n'a pas besoin de voir clair, me répondit-il, pour parler à celui qui est le soleil de justice et la lumière du monde. » Alors c'est cela qu'on prenait le désert. Ce n'est pas un goût romantique. Il y a des gens qui fuient le monde, mais par égoïsme, parce qu'ils ne peuvent pas sentir qu'ils s'entendent avec personne. Alors ils vivent en solitaire, mais ça c'est le désert de l'égoïste. Ce n'est pas ça le désert chrétien. Le désert chrétien, c'est le désert qui veut trouver Dieu. La solitude, oui, la solitude, mais pour Dieu, pour aimer celui qui est le seul à pouvoir être aimé. Voilà l'exemple qu'il nous donne. Je pourrais vous citer un autre texte. Encore. « Cette douceur de la solitude, je l'ai éprouvée à tout âge, depuis l'âge de 20 ans, chaque fois que j'en ai joui. Même sans être chrétien, j'aimais la solitude en face de la belle nature, avec des livres, à plus forte raison, quand le monde invisible est si doux, fait que dans la solitude, on n'est jamais seul. L'âme n'est pas faite pour le bruit, mais pour le recueillement, et la vie doit être une préparation du ciel, non seulement par les œuvres méritoires, mais par la paix et le recueillement en Dieu. C'est-à-dire, la vie est une préparation du ciel, non seulement parce que quand on est sur terre, on mérite le ciel, c'est entendu, mais aussi parce que la vie sur terre nous donne déjà un goût du ciel. Voilà. Il faut bien comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de souffrir sur terre pour aller au ciel, mais c'est d'être heureux déjà sur terre. Un chrétien malheureux, c'est le signe que sa vie chrétienne n'est pas en ordre. L'homme s'est jeté dans des discussions infinies, le peu de bonheur qu'il trouve dans le bruit suffirait à prouver combien il s'y égare, loin de sa vocation. Oui, c'est cela le désert, c'est de se retrouver l'esprit chrétien de l'amour absolu. Oui, amour exclusif de Dieu. Amour exclusif de Dieu est donc le combat, parce que le monde est contre Dieu. Oui, le combat. Le démon nous tente sans cesse. Oui, le démon nous tente non pas parce qu'il nous apparaît, mais par le monde et par l'imagination. Nous sommes tentés sans cesse. Et bien souvent, nous sommes défaits. Nous succombons. Toute notre vie est là pour manifester que nous succombons aux tentations. Eh bien, le carême est le temps de la contre-attaque. Le carême est le temps de la contre-attaque. C'est un temps de combat. C'est très important de bien le voir. Le carême est un temps de combat. Ce n'est pas un temps seulement de recueillement, mais c'est un temps de lutte et donc de mortification. Eh bien, je vais vous citer aussi l'exemple de Charles de Foucault. Vous allez voir le changement avec l'origine, avec le début. En chemin de fer, il choisit toujours un compartiment de troisième classe. Moi, à l'époque, il y avait des troisième classe. Dans les plaines sablonneuses du Sahara, il marche toujours à pied, bien qu'il soit excellent cavalier. Les soldats qui nous escortaient nous offraient leurs montures quand ils mettaient pied à terre pour se délasser. Une fois, le père, extrêmement fatigué, consentit sur mes instances à aller à cheval. Quand nous faisons une halte, harassé et le corps en sueur, il me donnait son burnous pour me couvrir, tandis que lui, revêtu seulement de sa robe de toile légère, tremblait de froid. Je ne l'ai jamais vu boire du vin ou des liqueurs, et il ne m'a jamais permis d'en accepter, c'était un religieux qui parle, quand les officiers m'en offraient. Sur ce point de sa règle, il était inexorable. Une seule fois, il a mangé de la viande en ma présence, avec tous les gens de la caravane. Je ne l'ai jamais vu non plus déjeuner le matin pendant que nous séjournions à Beni Abbès. Il se contentait du dîner de 11h et du souper de 6h du soir. Il m'obligeait au contraire à interrompre l'oraison et à sortir de la chapelle pendant 10 minutes tous les jours vers 7h du matin pour aller prendre une tasse de café et un morceau de pain pour lui, pour les autres, mais pas pour lui, donc. Bon. Et suprême mortification pour Charles de Foucault, on l'extrait de son journal. J'ai toujours le Saint-Sacrement, bien entendu. Je renouvelle les saintes espèces lorsqu'il passe un chrétien et que je puis dire la messe. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, jusqu'à une date récente, du reste, les prêtres n'avaient pas le droit de dire la messe s'ils étaient seuls. C'est normal, parce que la messe est un acte de liturgie, un acte public, et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui représente l'Église. Donc on ne devait pas, en principe, dire la messe seul. Et la règle est restée de manière assez récente. Alors à l'époque, elle valait. Donc quand il était seul dans le désert, et qu'il n'y avait que des musulmans, il ne pouvait pas dire la messe. Je ne me suis jamais cru en droit de me communier moi-même en dehors de la messe. Si en cela je me trompe, hâtez-vous de me l'écrire, etc. 25 décembre, Noël, pas de messe, car je suis seul. 1er janvier 1908, unissez-vous à tous les sacrifices offerts en ce jour, pas de messe, car je suis seul. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire pour un prêtre, ne pas pouvoir dire la messe. Certainement, mortification suprême. Pour l'amour de Dieu, c'est curieux, hein? Très curieux, oui. Se retirer seul dans le désert pour l'amour de Dieu et ne pas avoir la messe. Vocation spéciale, oui, tout à fait. Mais qui montre ainsi ce qu'est l'esprit absolu. Oui. C'est une contre-attaque contre l'esprit du monde. Voyez, quand on se réfère à la crise de l'Église, et qu'il nous arrive de penser à ceux qui ont lâché le combat de la tradition ou qui acceptent les édits du monde, les compromissions. Eh bien, bien souvent, il y a ce regret du combat chrétien, vous voyez. Bien souvent, il nous arrive nous-mêmes de faire ces réflexions, de dire, oh, tout de même, il ne faut pas exagérer, il ne faut quand même pas être en marge, il ne faut pas voir le mal partout, il faut savoir regarder le bien partout où il est, c'est vrai d'ailleurs. Oui, on entend parfois ces réflexions, et c'est bien souvent le signe qu'on a abandonné le combat chrétien. Qu'on a abandonné le combat chrétien, oui. Alors on a tendance à lire n'importe quoi, on a tendance à aller au cinéma, sous prétexte de littérature, sous prétexte de culture. On a perdu l'esprit de combat. Il faut bien voir que si nous voulons rester fidèles chrétiens, il faut avoir cet esprit de combat. Il est vrai que nous devons avoir une vie différente des autres. On a perdu l'esprit de combat. Alors c'est pourquoi on trouve qu'il y a parfois des condamnations trop rigoristes, trop exigeantes. Oui, il nous arrive parfois de trouver tel et tel jugement dans la crise de l'Église, un peu trop dur, un peu trop exigeant. Mais bien souvent, cela vient du fait qu'on a perdu l'esprit de combat. On a perdu l'esprit d'authenticité chrétienne. Mais vous savez, les premiers chrétiens étaient très, très exigeants là-dessus. Très exigeants. Oui. Je pense pouvoir vous lire ce texte de l'épître de Barnabé. Ne nous abandonnons jamais au repos sous prétexte que nous sommes appelés, au risque de nous endormir dans nos péchés et de voir le mauvais prince prendre autorité sur nous et nous repousser du royaume de Dieu. L'apôtre Saint Paul nous le dit, et les premiers chrétiens en étaient très conscients, il faut se séparer du monde. Et avant de voir les modalités pratiques du carême, les résolutions pratiques qu'on peut prendre pendant le carême, et j'en dirai quelques-unes tout à l'heure, eh bien, avant toute chose, il faut avoir cette décision ferme au fond du cœur que nous devons être des combattants. Et les combattants doivent se séparer de l'ennemi. Et l'ennemi nous entoure. Alors, il faut combattre le monde. Oui. Il faut combattre le monde, il faut avoir cet esprit de combat. Et s'il nous arrive parfois d'être fatigués dans la lutte que nous menons, dans la situation présente de l'Église, dans l'apostolat, dans notre travail, avec les soucis de la famille, etc., etc. Les soucis aussi que crée le fait de vouloir être honnête dans son travail, c'est pas toujours facile, parce que dans le monde économique actuel, quand on essaye d'être honnête, on est souvent pénalisé. Donc c'est difficile de rester fidèle à la morale chrétienne, non seulement en famille, mais encore dans les affaires, dans le travail. Bon. Eh bien, quand on sent cette fatigue, quand on sent cette tendance à se laisser aller, c'est le signe que nous avons perdu le sens du combat chrétien. Alors il faut profiter du carême pour retrouver ce sens du combat chrétien. Oui, retrouver ce sens du combat chrétien. Et c'est d'abord cela, la pénitence. La pénitence, c'est de combattre, oui, de combattre. Et de combattre tout d'abord en supportant les choses. Combien de fois n'entend-on pas des gens qui se plaignent ? Oui, j'ai telle difficulté, j'ai tel problème, problème de santé, problème de travail, problème de famille, etc., etc. Bon, eh bien, ces choses-là sont bonnes parce qu'elles nous obligent au combat. La disposition nécessaire à la vraie pénitence est de supporter avec humilité et résignation les maux de cette vie présente, car nul ne peut aspirer ardemment à la vie future s'il n'a d'abord un souverain mépris pour celle-ci. Oui. Alors combattre pour repousser le malin et pour aimer la vie future. Si on veut aimer la vie future, la vie du ciel, il faut haïr celle de la terre, il faut mépriser celle. Si on veut, qui pourrait douter un instant que nous ne devions, même au milieu des félicités temporelles, les mépriser et les détester afin de parvenir au bien éternel. Il n'est pas interdit d'avoir des joies sur terre. Il faut savoir les mépriser pour trouver les véritables. Qui désire arriver à la vraie patrie, si ce n'est celui qui éprouve les ennuis et les douleurs de l'exil ? Nous sommes des exilés. Quel est l'homme raisonnable qui gémirait sur son état présent si cet état ne lui était pas à charge ? Et puis nous sommes continuellement exposés à 1000 fautes qui, prises séparément, sont légères et ne donnent pas la mort à l'âme, mais qui, réunies, pourraient par leurs effets nous priver du bonheur éternel si elles n'étaient effacées chaque jour par le repentir. Oui. Alors tous les jours, il y a des petites fautes qui s'ajoutent. Tous les jours, il y a des péchés véniels. Bon. Eh bien, ces péchés véniels peuvent contribuer à donner la mort à l'âme si elles ne sont pas effacées chaque jour par le repentir. C'est pourquoi celui qui réfléchit sérieusement comprend à quel danger il est exposé tant qu'il est éloigné de Dieu. Donc, tant qu'on peut, il faut faire pénitence. Il faut faire pénitence pour retrouver le sens du combat chrétien, l'amour exclusif de Dieu. Et combattre ces tentations et ces péchés, s'ils ne sont pas combattus tout de suite, eh bien, ils nous font tomber davantage. Et à ce sujet, eh bien, il suffit de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons attentivement l'exemple de Jésus. Il nous donne l'exemple de plusieurs vertus. Il va dans la solitude, il jeûne, il prie, il veille, il couche sur la terre et y prend ce repos. Il vit au milieu des bêtes sauvages. Voilà ce que fait notre Seigneur. Unissez-vous à ses souffrances. Partout et toujours, il a mené une vie austère et de mortification. Mais c'est surtout au désert qu'éclatent ses vertus. À son exemple, nous devons nous livrer à leur pratique. Et il y a ici quatre vertus de la vie spirituelle qui se prêtent un appui réciproque et merveilleux. La solitude, le jeûne, la prière et la mortification corporelle, voyez. Eh bien, c'est cela qu'il faut pratiquer pendant le carême. La solitude, c'est-à-dire nous mêler aux affaires du monde autant que c'est nécessaire. Bon, pour le travail, c'est nécessaire. Pour le reste, non. Le jeûne, c'est-à-dire les pénitences corporelles. Les jeûnes, oui, le fait de se priver parfois de nourriture, dans un certain sens. La prière, c'est très important. La prière, plus de prière, et la mortification corporelle. À ces quatre vertus, nous pouvons parvenir à la pureté du cœur. Avec ces quatre vertus, nous pouvons parvenir à la pureté du cœur, qui doit surtout être l'objet de nos désirs, parce qu'elle renferme, pour ainsi dire, en elle-même toutes les vertus et chasse tous les vices. Aussi lisons-nous, dans les conférences des Pères du Désert, que tous les efforts du moine doivent tendre à acquérir la pureté de cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Plus vous êtes purs, plus vous vous approchez de Dieu, et la pureté parfaite vous unit à Dieu. Pour nous aider à acquérir cette vertu, la prière fervente et assidue est d'une grande puissance. Mais la prière de celui qui flatte son corps et se laisse aller à l'oisiveté est de nul effet. Cette prière doit être accompagnée du jeûne et de la mortification corporelle sans excès, bien sûr. Oui, la prière seule ne sert à rien. Oui, beaucoup de gens se font des illusions parce qu'ils récitent beaucoup de prières. C'est bien de prier. Mais si la prière n'est pas accompagnée de la mortification, de la pénitence, de la conversion, elle ne sert à rien. C'est une illusion. On se donne bonne conscience en rajoutant une ou deux dizaines de chapelets, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas de changement. Et le changement, mais c'est de faire de la pénitence, voyez. Comprenons bien, je me résume en somme, nous vivons dans un monde de désordre, tous les jours il suffit de le regarder et de voir les journaux, nous vivons dans un monde de désordre politique, monde de désordre religieux, monde de désordre économique. Et l'origine de ce désordre, c'est le péché, c'est le désordre intérieur. Et nous-mêmes, nous sommes en désordre dans notre vie. Regardez, chacun peut faire son examen de conscience, quel est l'épreuve, pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il y a le désordre. C'est-à-dire qu'on est déchiré, on est passionné, on est inquiet par des soucis. Soucis de loisirs, soucis matériels, soucis de son bien-être. On veut s'amuser avec le monde, on veut écouter de la musique, on veut sortir pour ceci, sortir pour cela, et puis on a son travail, on a des soucis de famille, et on est déchiré entre ces 36 choses, et on ne sait plus ce qu'il faut faire. On est entraîné dans un espèce de tourbillon, on ne sait plus s'en sortir. Le carême, c'est de remettre de l'ordre. La première pénitence, on va en parler des pénitences concrètes là. Eh bien, la première pénitence, c'est de mettre de l'ordre. Le grand péché, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a un désordre général qui est en nous, et nous acceptons ce désordre en vivant comme le monde. Alors, quelles sont les choses pratiques à faire pour le carême, les mortifications? Bon, bien sûr, on pense tout de suite aux mortifications corporelles. Bon, ça va sans dire. Bien sûr. Maintenant, notez que ça va sans dire, mais c'est tout de même mieux de le dire aussi. Ce n'est pas à négliger. Bon, il y a le jeûne, on peut aisément s'abstenir de vin, s'abstenir d'alcool, s'abstenir de tabac, ce qui n'est pas plus mal pour l'entourage, s'abstenir de sucreries, on pourrait ajouter mortifier la chair du point de vue du chauffage, par exemple, du confort, de la musique, hein, éviter de boire et de manger entre les repas, etc., etc. Bon, c'est une série de mortifications corporelles. Vous remarquerez qu'il s'agit surtout de mettre de l'ordre. Bon, je ne mets pas, m'étendre là-dessus. Je pense que chacun peut trouver lui-même les mortifications qui lui conviennent. Bon. Mais il y a des pénitences plus discrètes, mais beaucoup plus fortes. Et c'est à ces pénitences-là que je voudrais vous inviter. Pénitences qui ne risquent pas de faire du mal à la santé, bien au contraire. Bien au contraire. Des pénitences qui vont vraiment restaurer l'ordre. C'est ça, la pénitence, c'est de restaurer l'ordre qui a été détruit par le péché. Alors je voudrais vous inviter à quatre mortifications qui sont, bon, j'allais dire faciles. Oui, enfin, apparemment, oui, c'est très facile. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais je vous assure que si vous faites le carême en les faisant, eh bien, si vous le faites en esprit de prière, bien sûr, eh bien, vous aurez changé quelque chose en vous. La première mortification à laquelle je vous inviterai, c'est de régler votre vie. Régler sa vie, c'est-à-dire avoir un emploi du temps. Éliminer l'oisiveté, c'est-à-dire les pertes de temps. On ne fait rien, on traîne, on rêvasse. On marche de long en large sans trop savoir quoi faire. On est à moitié endormi et à moitié réveillé. Alors bon, si vous êtes fatigué, dormez. Sinon, eh bien, travaillez. Oisiveté. Les passe-temps inutiles. Veillez à l'heure du coucher et à l'heure du lever. Et en général, si on n'arrive pas à se lever, c'est parce qu'on n'arrive pas à se coucher. Oui. Alors, avoir un emploi du temps régulier. La vie désordonnée, ça arrive surtout chez les jeunes, mais pas seulement chez eux. Eh bien, vous savez, une vie désordonnée, une vie qui n'a pas de règles, une vie qui n'a pas d'emploi du temps, où on fait ce qu'on veut, eh bien, c'est un acte de rébellion contre l'ordre de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de gens débordés, il n'y a que des gens qui ne savent pas s'organiser. C'est ça. Les gens qui veulent trop en faire, qui veulent faire ce qui leur plaît. Donc, première pénitence, régler sa vie et faire un emploi du temps et le régler sérieusement. La deuxième pénitence, c'est de refuser le monde moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, précisément, refuser les modes du monde moderne. Refuser les modes du monde moderne. Les modes musical, cinéma, télévision, les modes vestimentaires et les lectures. Je veux dire les lectures de revues mauvaises ou mauvaises bandes dessinées. Entre parenthèses, à propos des modes vestimentaires, je me permets de signaler quand même que la messe du dimanche, surtout la messe solennelle, la messe chantée, requiert de notre part une certaine tenue, vous voyez. Parfois des gens qui viennent à la messe en tenue de sport, en tenue de travail. Alors que dans des tenues dans lesquelles on n'oserait pas se présenter devant un patron pour demander une place. On respecte les patrons, on ne respecte pas le bon Dieu. Bon, quand même. Oui, refuser les modes du monde moderne. Bon, je ne veux pas donner de détails quand même, hein, mais enfin, chacun pourra comprendre. Une troisième pénitence, c'est de s'appliquer à faire ce qui déplaît. S'appliquer à faire ce qui contrarie. S'appliquer à se soumettre à la volonté des autres. Accepter d'être contredit. Bon, je ne dis pas au plan religieux, c'est sûr. Hein, s'il y a des contradictions du point de vue doctrinal, bon, il faut savoir répondre, d'accord. Mais il y a des moments où on se rebelle pour des contradictions stupides, parfois des disputes en famille, parce que personne ne veut avoir tort, mais ce sont des questions ridicules. Alors, troisième pénitence, s'appliquer à faire des choses qui déplaisent, accepter ce qui contrarie, accepter de se soumettre à la volonté des autres, accepter de se laisser contredire. Oui. Et puis, la quatrième pénitence, alors c'est un petit peu plus difficile à expliquer. La quatrième pénitence serait de combattre le particularisme et l'individualisme, qui est une forme spirituelle d'égoïsme. Le défaut que je vise là, c'est le défaut de l'esprit d'indépendance. Et ça concerne aussi bien le travail, l'apostolat, la prière et la famille. Je vais donner quelques exemples. On veut être indépendant, on veut en faire à sa tête sans s'occuper des autres. C'est l'esprit d'égoïsme, l'esprit d'indépendance, le particularisme. Et ça existe dans tous les domaines. Alors, je donne deux ou trois exemples, mais vous pourrez les retrouver vous-même. Ben, l'exemple en famille. L'exemple en famille, c'est que chacun vit pour soi, comme il veut. On prend la famille pour un hôtel, on s'absente et on rentre quand on veut, à n'importe quelle heure. Bon. Alors, de ce point de vue-là, les parents, c'est évidemment les parents sont les premiers responsables, mais les parents doivent d'abord montrer l'exemple, premièrement. Et puis, deuxièmement, ayant montré l'exemple, eh bien, ils ne doivent pas permettre des absences sans motif suffisant. Bon, il y a des absences pour motif suffisant, c'est entendu. Il y a des questions de travail, des questions d'apostolat. C'est possible. Il y a des absences du foyer familial qui sont tout à fait légitimes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas légitimes. Bon. Alors que la vie de famille soit une vie unie, et pas une vie où chacun tire de son côté pour aller où il veut, quand il veut, pour n'importe quoi. Bien. Ça, c'est l'indépendance. La prière aussi, la prière en famille, c'est une chose importante. C'est très bien que chacun prie, mais il faut qu'il y ait la prière en famille également. Bon. Ça, c'est l'indépendance des individus par rapport à la famille. Bon. Mais il y a une autre indépendance qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut savoir modifier également. C'est l'indépendance de la famille par rapport à l'Église. L'indépendance de la famille par rapport à l'Église. Je veux dire que, par rapport aux œuvres d'Église, que ce soit pour la messe, que ce soit pour des écoles, que ce soit pour des réunions d'apostolat, pour des activités politiques, pour des récollections par exemple ou autres, eh bien chacun veut un peu les choses à sa façon, comme il l'entend, comme ça l'arrange, et sous d'excellents prétextes. Je veux dire plus concrètement, eh bien que chaque famille a tendance à vouloir la messe ou les réunions d'apostolat ou autres, ou bien les écoles ou ce que vous voudrez, n'est-ce pas, comme ça l'arrange, à proximité de chez soi, aux heures où ça arrange, etc., etc. Alors il est clair que dans des conditions pareilles, j'en parlais avec certains de mes confrères prêtres, c'est très difficile d'organiser quelque chose, parce que chaque famille va tirer la couverture à soi. Alors pour rassembler tout le monde, pour des activités, pour des pèlerinages, pour des messes, ou autre, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, c'est pratiquement impossible, parce que personne n'est d'accord avec personne, et qu'il y en a toujours un que ça n'arrange pas. Et par conséquent, si nous étions des milliers, ça ne serait pas gênant, mais vu le nombre que nous sommes, il est clair que ça pose des problèmes, voyez-vous. Alors la vie de famille sert de prétexte à l'égoïsme. La vie de famille sert de prétexte à l'égoïsme. Et chacun veut organiser les choses à sa façon, ce qui fait qu'en pratique, on n'organise rien du tout. Voyez. Et ça, c'est un grand obstacle pour la vie de l'Église. Grand obstacle pour la vie de l'Église. Je précise aussi, dans le cas de ce combat contre l'égoïsme, bon, je ne vais pas juger parce qu'il y a des cas particuliers dans lesquels on ne peut pas rentrer et qu'il y a des choses qui sont tout à fait légitimes. Mais il n'empêche que la messe du dimanche, la messe dans toute sa plénitude, c'est la messe chantée. La messe basse, le matin très tôt par exemple, ou le soir, est une concession de l'Église à la faiblesse. Parce qu'il y a des gens qui effectivement, pour des raisons familiales tout à fait légitimes, ou pour des raisons de travail, ne peuvent pas aller à la messe chantée ou à la messe solennelle. C'est pas possible parce qu'il y a des enfants, ou parce qu'il y a un travail, il y a des problèmes. Bon, c'est entendu. Mais ce sont des concessions de l'Église à la faiblesse humaine. Mais la messe du dimanche, en soi, c'est la messe chantée. Et là encore, eh bien, le fait de ne pas aller à la messe chantée, de préférer aller à la messe le soir ou le matin, parce que c'est plus rapide, hein, d'abord on gagne un sermon, ensuite on gagne du temps, etc., etc. Eh bien tout ça, bon, c'est une manifestation d'égoïsme spirituel, alors que l'Église se rassemble pour la messe chantée. Vous voyez, il y a certainement, bon, je crois pour la plupart ici, vous allez aux messes chantées, c'est très bien, mais bon, je souhaite que ça puisse se répercuter, bien sûr. Et bien, c'est une forme d'égoïsme que pour une journée de ski, par exemple, ou autre chose, de se contenter d'une messe rapide, comme ça, on est débarrassé pour la journée. Vous voyez, il y a quelque chose, et ça, c'est une espèce d'égoïsme. Vous voyez, la vie de famille sert de prétexte à l'égoïsme. Alors c'est une chose à laquelle il faut bien veiller, vous voyez. Ça peut être une mortification aussi de veiller à cet esprit d'indépendance. Bon, j'ai parlé d'indépendance de l'individu par rapport à la famille, de la famille par rapport à l'Église. J'aurais pu multiplier les exemples, hein, l'indépendance dans le travail. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais enfin, il me semble que dans un atelier, dans une entreprise, il faut quand même qu'il y ait une certaine unité de travail. Et si chacun tire dans son sens, pas moyen de travailler ensemble. On ne peut pas.
Dans une école, par exemple, si les professeurs ne s'entendent pas, on le sent tout de suite au niveau des élèves, c'est clair. Bon, ça, nous n'en sommes pas responsables, mais autant que possible, nous devons y travailler. Combattre l'égoïsme, vous voyez, combattre l'individualisme. Et ça, c'est le fruit de l'idéologie des droits de l'homme, il faut bien l'avouer. C'est l'ambiance dans laquelle on vit. L'ambiance actuelle, avec les journaux, la télévision, conduit à l'exaltation de la personne humaine et à l'esprit d'indépendance. On vit là-dedans. Ben oui, mais il faut essayer de le combattre. Alors je me résume, savoir régler sa vie, refuser le monde moderne, former sa volonté et refuser le particularisme. Vous voyez, bon, cela fait beaucoup d'applications concrètes. Et puis enfin, il faut ajouter bien sûr la prière. Inutile de le recommander. Je me permets de recommander pour le carême l'exercice du chemin de la croix, qui nous fait vivre les souffrances de notre Seigneur, qui nous fait vivre le mystère de notre rédemption. On peut très bien faire le chemin de la croix, même sans aller dans une église. Ce n'est pas toujours facile d'aller dans une église pour le faire, mais on peut très bien le faire chez soi, tout seul, dans sa chambre. Et puis, pourquoi pas, l'office des vêpres et des complis. L'office des vêpres, ici, qui sont chantés tous les dimanches, puis les complis le soir, soit qu'on vienne au séminaire, ce n'est pas toujours facile, je reconnais, mais on peut les réciter entre soi, en famille, par exemple, si possible, si on connaît un peu la musique. On peut très bien chanter une partie des complices, c'est une manière d'accentuer la prière. Voyez. Et je voudrais terminer enfin par une des plus belles prières de l'Église pour le carême, une prière que nous avons chantée ce matin à la messe. C'est le psaume 90. C'est le deuxième psaume des complices. C'est le psaume qu'on a chanté ce matin entre l'Épître et l'Évangile. Et ce psaume également, si vous êtes attentif, vous l'avez pu retrouver dans plusieurs des textes de la messe. Dans l'introïte, l'antienne d'offertoire, l'antienne de communion sont tirés de ce psaume. Et c'est un psaume qui revient plusieurs fois dans la liturgie du carême. Alors je crois que c'est bien de le lire un petit peu, de comprendre ce qu'il veut dire. Je reconnais que ce n'est pas facile de le comprendre, les psaumes sont un petit peu difficiles à suivre, parfois on n'a pas l'habitude. Voyez-vous, que veut dire ce psaume ? Que veut dire ce psaume ? Ce psaume exprime la confiance du chrétien dans le combat. Voilà. Le chrétien est un combattant sur terre et il s'appuie sur Dieu. Alors c'est un psaume qui chante la confiance en Dieu, mais c'est la confiance non pas de celui qui s'endort, ou qui ne fait rien, mais c'est la confiance du combattant, celui qui a mis sa confiance en Dieu et qui donc sait qu'il peut lutter contre le monde, voyez-vous. Alors c'est une prière qui célèbre cela. Toi qui demeures sous la protection du Très-Haut, qui habites à l'ombre du Tout-Puissant, dis à Dieu, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire du démon, et de la peste. De son ombre, il te couvrira, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est-à-dire que Dieu nous protège contre les attaques du monde. Alors, si vous trouvez que vous êtes vulnérable aux attaques du monde, aux tentations, ayez d'abord l'acte de confiance en Dieu. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Les flèches du jour, c'est-à-dire les tentations du jour, la peste qui erre dans les ténèbres et la contagion qui ravage en plein midi, les péchés du milieu de la journée, péchés souvent contre la chair. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, autour de nous, nous voyons les gens qui tombent dans le péché. Et on a tendance à dire que nous allons y tomber aussi. Ce n'est pas vrai. Nous avons la force de Dieu pour cela. Tu n'auras qu'à contempler de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as Yahvé pour refuge, tu as fait du Très-Haut ton asile. Alors à partir de ce verset, le psaume s'adresse au Christ. Le psaume pouvait valoir jusqu'à présent pour n'importe quel chrétien. Il vaut à partir de cette partie pour le Christ lui-même, et on admire le Christ comme notre exemple. Parce que vous êtes Seigneur mon espérance, vous avez placé votre refuge en un lieu très élevé. Le genre humain, voyant l'homme mourir, ne le voyait pas ressusciter. Il savait donc que redouter, il ne savait qu'espérer. Or, celui qui, pour nous instruire, nous avait fait craindre la mort, afin de nous faire espérer ensuite la résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur est ressuscité le premier. Il est ressuscité avant tous les hommes. Il a souffert en mourant ce que beaucoup d'hommes avaient déjà souffert. Il a fait en ressuscitant ce que nul n'avait fait avant lui. Quand l'Église recevra-t-elle cette récompense, sinon à la fin des siècles? La tête, le Christ, a réalisé d'abord ce que les membres ont à espérer. Que l'Église donc dise à Jésus-Christ, « Parce que vous êtes Seigneur mon espérance, vous avez placé votre refuge en un lieu très élevé. » C'est-à-dire, vous êtes ressuscité d'entre les morts et vous êtes monté dans le ciel pour y placer votre refuge en un lieu très élevé et y devenir mon espérance. J'étais sans espoir sur la terre et ne croyais pas devoir ressusciter. Mais maintenant je le crois parce que ma tête est montée au ciel. Ma tête, c'est-à-dire le Christ, et où la tête est arrivée la première, les membres parviendront à leur tour. Voilà, voilà le sens de ces paroles. Tu as fait de Yahvé ton asile. Le malheur ne parviendra pas jusqu'à toi et nul fléau n'approchera de ta tente, car il a ordonné à ses anges de te garder en tout ce que tu fais. Là encore, la prière s'adresse au Christ. Les pieds du Christ, quels sont-ils? Ce sont les saints. Dieu ne permettra pas que les pieds du Christ, c'est-à-dire les saints qui vivent sur terre, soient atteints par le démon, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. De peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Bon, nous pensons bien sûr aux pieds du Christ, c'est-à-dire le fait que le démon dit au Christ, cite cette parole au Christ, en disant que les anges protègent le Christ de telle manière que ses pieds ne soient pas blessés par les pierres. Mais ça, c'est matériel. Mais le sens spirituel, c'est que Dieu ne permet pas que les saints soient atteints par la corruption du monde. Oui. Tu pourras marcher sur le scorpion et le serpent, fouler aux pieds le lionceau et le dragon. Super aspidem et basilescum ambulabis. Tu pourras fouler aux pieds le diable. Cela veut dire que le chrétien qui est dans le combat et qui est sous la protection de Dieu pourra fouler au pied le dragon. Et c'est toujours ce qu'il faut considérer, voyez. Je reconnais que peut-être on pourrait croire, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait croire que dans un séminaire, nous sommes un peu à l'abri des assauts du monde et que nous ne risquons rien. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Bon. Mais les gens du monde, en tout cas, se disent ceci. Eh bien, les prêtres et les séminaristes sont à l'abri dans leur séminaire, ils n'ont pas les tentations du monde, ils ne risquent rien. Mais nous autres, c'est autre chose. D'autre chose, nous sommes sans arrêt attaqués. Alors nous sommes fatigués de combattre, et puis nous ne voyons pas à quoi nous servons, à quoi sert notre combat. Nous voyons toujours le mal qui s'étend autour de nous. Bon, on lit les journaux, on regarde ce qui se passe autour de nous, et nous voyons le mal qui s'étend partout, et c'est décourageant. Bon, eh bien, il faut se dire toujours que nous sommes les membres du corps du Christ, et que ce corps du Christ, ce Christ dont nous sommes les membres, doit écraser le dragon. Quand il le fera et comment, nous ne savons pas. Et peut-être qu'autour de nous, ça n'est pas facile de voir cette victoire. On aurait tendance plutôt à voir le contraire, l'extension du mal. Bon. Eh bien, ce que l'Église demande, c'est d'abord des chrétiens combattants. Des chrétiens combattants qui soient courageux et qui ne se découragent pas. Qui ne soient pas immédiatement. C'est la grande arme du démon, voyez, le découragement. Parce qu'on essaye une activité apostolique, on essaye de convertir quelqu'un, on essaye d'amener quelqu'un à la vérité, on essaye d'expliquer quelque chose, on essaye de rester honnête dans son travail. Et puis on voit que ça ne sert à rien. Alors on se décourage. Eh bien ça, c'est la marque du démon. Le découragement est la marque du démon. Il faut des chrétiens combattants qui soient fiers d'être chrétiens, qui soient fiers d'être catholiques, et qui aient la volonté d'attaquer. Alors comment avoir cette volonté d'attaquer? Comment avoir cette volonté de contre-attaque? Comment avoir cette force qui nous fait dominer les échecs, même si ce que nous essayons ne marche pas, ne fonctionne pas? Comment? Eh bien, en nous appuyant sur le Christ, en considérant que le combat que nous menons n'est pas notre combat. C'est le combat du Christ. C'est le combat du Christ. Attention. Eh bien, le premier combat, nous le menons dans le carême. Voyez. Le carême est un temps de combat, un temps de combat contre nous-mêmes, je vous en ai parlé suffisamment, et puis un temps de combat contre le monde. Vous devez trouver là la force de combattre contre le monde. Et si vous avez des œuvres apostoliques, si vous essayez d'amener ceux qui sont autour de vous à la vérité chrétienne, eh bien dites-vous bien, c'est difficile et c'est normal, et c'est un combat, C'est un combat que vous gagnerez d'abord par votre sainteté, par votre combat intérieur, et puis ensuite, eh bien, mon Dieu, par tout ce que vous pouvez organiser et combattre extérieurement. Mais il faut savoir que ce combat, c'est le combat du Christ. Si c'est le vôtre, c'est perdu d'avance. Si c'est le vôtre, c'est perdu d'avance. Si c'est celui de Dieu, si c'est celui du Christ, alors nous savons, nous avons les promesses. Tu pourras marcher sur le scorpion et le serpent, fouler aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, répond Dieu, je le sauverai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le couvrirai d'honneur. Je prolongerai ses jours jusqu'à satiété et je lui ferai voir mon salut. Et je lui ferai voir mon salut. Et ostendam illi salutare meum. C'est la conclusion du psaume que vous avez tous les soirs accompli. Ce psaume est d'une grande paix et en même temps très courageux et très combattant. Voyez-vous, si Dieu nous affirme, nous donne dans ce psaume, si Dieu nous révèle qu'il nous protégera contre le dragon, contre le serpent, contre la méchanceté du monde, ce n'est pas pour nous dire qu'il faut fuir, c'est au contraire pour nous dire d'attaquer. Or, la protection de Dieu ne sert à rien s'il n'a rien à protéger. Si nous ne sommes pas en guerre contre le monde, qu'avons-nous besoin de la protection de Dieu? Si ce psaume est vrai, nous devons rencontrer des épreuves dans notre vie, c'est normal. Autrement, ça ne sert à rien. La gloire de Dieu et la gloire de l'Église est dans le combat. Elle n'est pas dans la fuite ou dans l'absence d'épreuves. Elle est dans le combat. Alors voyez, face aux épreuves de la vie, que ce soit les tentations qu'on éprouve, ou que ce soit les attaques des ennemis de l'Église, les ennemis de la tradition catholique, ou de l'indifférence générale dans laquelle nous sommes, eh bien, il faut relire ce psaume et nous dire que si Dieu nous donne sa protection, c'est pour que nous allions combattre. Ce n'est pas pour nous décourager. C'est le combat de Dieu que nous menons. Et la victoire, eh bien, nous ne savons pas quand elle doit être, mais nous savons qu'au plus tard, elle est dans la vie éternelle. Vous êtes sur la terre parce que l'objet de vos affections est sur la terre. Eh bien, mettez-le dans le ciel et votre cœur y sera également. Car où sera votre cœur, où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur.